Histoire de perdre le Nord sur Studio Zef. Au Groenland, certains Inuits sculptent des cartes de leur territoire côtier à partir de bois flotté. Ces pièces portatives sont petites, facilement transportables et elles peuvent être lues dans l'obscurité. Elles représentent les côtes en ligne continue, d'un côté du bois à l'autre. Superposées à une carte classique, on voit tout de suite deux représentations différentes du territoire et de la façon de se repérer dans l'espace. Les terres arctiques n'ont pas échappé à la colonisation qui a nommé et cartographié cet espace, certes isolé mais pourtant peuplé. Evenk, Nenets, Inuit, Sami, répartis sur trois continents sur une zone de 30 millions de kilomètres carrés. Les pôles ne font pas souvent la une de l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Trop loin, trop froid, trop isolé. Mais les pôles exercent aussi une fascination, un attrait irrésistible pour les aventuriers de tout niveau et nécessaire pour les scientifiques. Tant mieux pour les habitants peut-être, bien que dans certaines régions, l'expansion des croisières de luxe inquiète et en même temps embellit l'économie. Le Groenland par exemple accueille environ 30 000 touristes par an. La géopolitique de l'Arctique n'annonce-t-il pas, si ce n'est déjà commencé, un théâtre d'affrontement avec plusieurs pays riverains, Canada, Danemark, États-Unis, Norvège, Russie, qui ont soumis des revendications territoriales? L'Arctique ne voit-il pas son avenir menacé par les changements climatiques, l'exploitation minière, le commerce maritime, les exploitations gazières et pétrolières, ainsi que la pêche excessive dans certaines zones clés? Les régulateurs de notre planète, que sont les extrémités boréales et australes, ne méritent-ils pas plus d'attention au même titre qu'une forêt primaire ou des plaines abyssales? On peut penser son village, son pays, son continent dans les limites de leurs horizons respectifs. Qui veut penser la planète doit aussi se tourner vers les pôles. François Garde, romancier et ancien administrateur des terres australes et antarctiques françaises. Marie-Noëlle Rimaud, enseignante chercheuse.
Dans une structure qui s'appelle Excelia, qui est une école de commerce qui est basée dans quatre sites, dont La Rochelle. J'enseigne également en université, l'université de tourisme de, on va dire, Angers et Saumur, à l'université catholique de l'Ouest à Vannes, et de temps en temps sur Paris. Et je travaille sur les problématiques de tourisme dans les milieux littoraux sensibles, les territoires polaires, en particulier le Groenland. Alors, donc vous m'avez interrogé un peu sur les questions géopolitiques aujourd'hui que connaissent ce territoire si atypique, sachant qu'effectivement, il y a une forte actualité avec les déclarations du président Trump sur la possibilité de rachat du territoire. Alors, peut-être avant de revenir sur cette question, donc rappeler ce qu'est le territoire. Le Kalaallit Nutnat, hein, c'est le nom inuit du territoire qui signifie la terre des hommes. Pour rappeler quand même un petit peu le champ d'expression, c'est qu'il est grand comme quatre fois la France. C'est aussi le territoire qui est le moins densément peuplé au monde, avec environ 57 000 habitants, 2023, sur 2 millions de kilomètres carrés, quatre fois la France, et un territoire qui est recouvert à 81% de glace. Ses voisins, ça c'est important quand on va parler géopolitique, le Canada au sud-ouest, l'Islande à l'est, la Norvège au nord-est. Donc bien que situé en Amérique du Nord, hein, on va revenir sur justement les velléités de rachat par Donald Trump, mais il fait partie aussi de la sphère économique de l'Europe. Et pour une raison principale, c'est que c'est connu par beaucoup, mais il appartient en partie, entre guillemets, au Danemark. Et donc, il fait partie de ce qu'on appelle des pays nordiques de la Scandinavie. Et on verra que ce titre, en fait, son appartenance au Danemark et de ce positionnement, il est aussi un des acteurs du Conseil des pôles. Le rachat du Groenland, pour revenir un instant peut-être là-dessus, c'est un débat ancien, hein, puisque déjà en 2019, le même Donald Trump avait confirmé qu'il souhaitait, donc c'était à l'été 2019, acquérir l'île Arctique. La présence militaire américaine, elle remonte à loin, et notamment elle remonte à la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le Danemark, sans l'autorisation et sans avis de la population groenlandaise, autorise les États-Unis à installer des troupes, et c'est la fameuse base de Thule. Donc 43, elle est mise en place, et ça devient une des places peut-être les plus emblématiques de la présence des États-Unis dans cet environnement nordique. Bien sûr, avec la guerre froide, ça n'a pas arrangé les choses, hein, et c'était aussi une des raisons pour laquelle cette base, elle a permis pour les Américains, donc elle est politiquement importante, de surveiller, de défendre son espace aérien contre, bien sûr, les potentiels missiles balistiques russes. Ce qui fait qu'effectivement, il y a aussi l'aspect maritime, puisque du fait du passage entre Groenland, Islande, Royaume-Uni, donc Arctique et Atlantique, eh bien, il y a toute la question aussi de la présence des flottes, notamment de sous-marins. Ce dont on va pas mal parler, c'est la question de l'importance économique et commerciale qu'on associe beaucoup au changement climatique et à la fonte des glaces, et donc c'est les ressources. 57 000 habitants, environ 30 000 dans les années 60, moins de 20 000 en 46, et ils sont assez dispersés, puisqu'on l'a vu, hein, le territoire est recouvert de glace, hein, à 80%, donc dans des petites villes, des communautés, aujourd'hui une centaine, et alors qu'au milieu du 20e, ils étaient 200. Face à ça, il y a eu aussi un phénomène nouveau dont il faut qu'on parle, parce qu'on a parlé des militaires, mais c'est le côté concentration urbaine, la volonté de ramener les habitants, la population, dans des espaces urbains, et notamment civils, qui sont sur la côte ouest du territoire, hein. En particulier Nuuk, la capitale, environ 13 000 habitants, qui est composée principalement de Groenlandais, mais un petit peu de Danois quand même, en gros 80-20 à peu près. Et ça, c'est à l'antithèse de ce qu'ils ont toujours connu. Puisque comme le rappelait, moi je cite toujours avec un immense bonheur Jean Mallory, qui est un de nos plus célèbres anthropologues, hein, qui a été d'ailleurs sur Thule, l'auteur de Ultima Thule, hein, qui est une référence. Jean rappelait qu'effectivement, à l'époque, c'était la chasse et la pêche qui constituaient la base de leur subsistance. Donc la concentration urbaine, leur ramener les populations dans les milieux urbains, c'est à l'antithèse de ce qu'ils sont. Effectivement, pour des motifs un peu abscons de limitation des coûts et aussi de dire cette population, elle ne peut pas rester tout le temps chasseur-pêcheur. Il faut qu'ils progressent un peu, il faut qu'on les éduque, même si ce n'était pas leur choix. Mais l'objectif, c'était de recentrer un peuple qui était de pêcheurs-chasseurs sur un nombre limité de territoires, et donc une trentaine. Hein, mais bien avant déjà, et là on revient avec Éric le Rouge, et les Vikings, qui, eux, décident de s'installer dans le sud-est du pays. Et c'est eux qui le baptisent, d'ailleurs. Hein. Je le dis toujours à mes étudiants, c'est peut-être la première campagne de marketing territorial, puisqu'on va l'appeler le « ground » pour « vert » et « land » pays. L'idée, c'était d'attirer, de convaincre que, finalement, les gens partiraient plus volontiers, finalement, pour ces territoires inconnus, hein, si le nom sonnait bien. Ça, c'est le début de l'histoire, tout va bien. Mais en même temps, ces gens-là, les Vikings, alors que ce sont des marins, ce sont des gens plutôt des guerriers, mais ils n'ont pas du tout compris qu'il y avait un territoire qui était très atypique. Et ce territoire, il a une réalité, c'est la nécessité de connaître son environnement, qui est un environnement, bien évidemment, de neige et de glace. Et de faire face, parce que la ressource, elle est très difficile à introduire, donc avec les ressources sur place. Donc environ malheureusement ça ils l'ont pas fait. Ils sont arrivés avec du bétail, donc il fallait du foin. Ils sont arrivés, ils mangeaient pas les ressources qui étaient sur le territoire, à savoir le phoque ou la pêche. Ils pêchaient pas alors que c'était d'excellents pêcheurs. Malheureusement refroidissement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien évidemment incapacité à s'adapter. Et ils disparaissent. Et on dit même à la fin, la petite histoire dirait que étaient pour les derniers tués par les Inuits. Enfin bon, voilà, donc disparition de la colonie viking du Groenland. Le Groenland, est-ce qu'il est ou pas, la question, moi j'ai envie de soulever, c'est est-ce qu'il est ou pas un territoire en devenir? Bien évidemment, c'est son lien avec le Danemark qui donne du sens à la question. Hein. Plus le lien finalement avec le Danemark se distendra, plus aussi le réchauffement climatique se confirmera, plus les choix vont être importants et stratégiques. Hein. Il faut vivre. Donc aujourd'hui, ils sont dépendants pour beaucoup du Danemark hein, et aussi un peu de l'Europe, on verra, mais économiquement, puisque le Danemark participe et soutient le développement du pays annuellement, hein, avec des fonds qui sont versés, c'est aussi simple que ça. Hein. L'Europe participe aussi, hein, alors pour donner un ordre d'idée, de l'ordre de 500 millions d'euros en direction du gouvernement groenlandais, un quart du PIB du territoire chaque année. Pour l'Europe, il y a aussi des enjeux avec un fonds de développement qui a été mis en place pour une... là, on va dire c'est 2021, 2030, je crois, un peu moins. Et là, c'est encore 260 millions d'euros pour une coopération bilatérale avec le Danemark. Donc, on voit bien que cette question de la ressource, elle est stratégique. Donc, ça veut dire que si cette ressource, s'il y a indépendance, cette ressource, elle va disparaître. Qu'est-ce qu'on met à la place? Donc, et là, quelles sont les alternatives de développement qu'il possède? Alors, bien évidemment, il y a eu traditionnellement la pêche, mais là aussi, la pêche, on sait que les situations de la pêche sont de plus en plus compliquées, hein, avec des surexploitations qui, voilà, et puis aussi des enjeux de commercialisation délicats. Bien évidemment, il y a les fameuses ressources naturelles et terres rares, hein, mais avec une complexité, c'est l'exploitation de la ressource, le coût de l'exploitation. Parce qu'on parle de ressources qui est soit dans des milieux glacés, soit sur, au fond des océans, donc très, très chères à exploiter. Et puis, bon, il peut y avoir, moi, ce qui est un champ sur lequel je travaille, c'est la question du tourisme, le développement d'un tourisme, sachant qu'on sait que les destinations nordiques ont plutôt le vent en poupe, hein, avec un effet de mode, notamment sur, que ce soit autour de l'Arctique et de l'Antarctique, via la croisière, entre autres. Tout ça, ça signifie qu'à un moment, la population, elle accepte de s'orienter. Alors, pour la ressource, ils ont fait le choix inverse. Il y a eu des changements politiques au sein du pays avec l'arrivée d'écologistes et la démission du Premier ministre parce que justement on refusait cette question des enjeux miniers. Hein. Donc il y a eu des rejets de gros projets. Hein. L'idée c'est effectivement inclure bien sûr le Groenland dans sa sphère d'influence, sachant qu'ils ont bénéficié jusqu'à présent les États-Unis d'un atout stratégique. Hein. Mais ça, c'était sans le posséder. Donc, on voit bien que l'exploitation des ressources peut se faire de la même façon sans annexion. La question, elle est, voilà, hein, ça peut dire aussi, si ce n'est pas le rachat, ça peut être demain, comme ça se passe d'ailleurs, je fais un peu de la provoque, mais là, sur les présences chinoises, notamment en France, on peut très bien aussi, par des locations et par des implantations minières et autres, exploiter sans acquérir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, les Groenlandais, ils ont pris leur développement en main. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils refusent l'aide des uns et des autres et ils continuent pour certains à aller encore étudier au Danemark et je pense que c'est bien, mais ils ont aussi des revendications indépendantes et surtout, ils veulent être consultés. C'est peut-être juste la conclusion à laquelle je vais arriver, c'est de dire qu'après tout, ce territoire, comme beaucoup de petits territoires insulaires, ce qu'on a besoin, et là on rejoint des problématiques qui sont d'actualité aujourd'hui qui est autour de la responsabilité sociétale hein, avec les piliers du social, de l'environnemental et de l'économie, ça veut dire qu'effectivement on consulte ceux qui sont tout directement concernés, à savoir les habitants. Et que l'indépendance, ils sont bien conscients que c'est délicat, mais à tout le moins, ils seraient, impliqués davantage dans la décision. La situation, elle serait beaucoup plus favorable. Là-dessus encore, peut-être aller voir les travaux de c'est une chercheuse qui a été faite docteur honoris causa à l'Université de Montréal, qui dit simplement « Ne venez pas en conquérant, venez pour travailler avec nous ».
Février 2024, Nicolas, Mathieu et Samuel, trois trentenaires passionnés de montagne, partent pour une aventure nordique dans le parc naturel du Sarek, dans l'extrême nord de la Suède. Hormis l'intérêt de découvrir en plein hiver un territoire vierge de toute activité humaine et le défi physique et mental que ça représente, l'idée de départ était de revenir avec un témoignage sur les enjeux climatiques et de faire un travail de sensibilisation auprès des écoliers. L'expédition ne se passe pas tout à fait comme prévu, la nature en a décidé autrement. Les trois amis se sont retrouvés prisonniers d'une tempête de neige, les empêchant de poursuivre leur chemin et les contraignant à appeler les secours avec pour finalité un rapatriement périlleux en hélicoptère.
Eh bien le projet qu'on a eu, il est né... D'une idée de Mathieu, donc un très bon ami avec qui on fait de la montagne depuis très longtemps, plus de 10 ans. Et puis un jour, il me dit, presque sur un coup de tête, hein, il me dit « Et si on faisait quelque chose de différent de ce qu'on a fait d'habitude ?» Et il avait une idée derrière la tête, et puis il avait vu un documentaire qui s'appelait « Isokène » et ça l'avait beaucoup inspiré. Et donc ça part de ce désir de faire un peu différemment. Et quelque chose de nouveau pour nous aussi, autant sur la destination que sur l'effort et l'organisation. Parce qu'on partait un peu quand même dans notre destination préférée, c'était un peu le Cantal, on y allait beaucoup. Et puis avec les expériences qu'on a faites, par exemple le Mont Blanc, etc., on s'est dit pourquoi pas faire passer le cap au-dessus. Et là, moi, sans hésiter... Je lui dis, ouais, carrément. On va où ? Et donc, il s'agit du parc national du Sarek, en Suède, qui se trouve vraiment au-dessus du cercle polaire, à peu près la même latitude que le sud du Groenland, au-dessus de l'Islande. Et pourquoi ce parc-là ? C'est pas juste parce qu'il y a eu l'inspiration de ce documentaire, mais aussi parce que c'est un parc, c'est l'un des plus grands parcs d'Europe naturels. Il est classé patrimoine mondial Natura 2000. La faune et la flore sont préservées depuis l'origine de ce parc. Et il n'y a aucun sentier de randonnée. C'est extrêmement sauvage dans le sens où il n'y a pas d'infrastructure comme on peut trouver dans les autres randonnées. Il n'y a aucune infrastructure touristique. Donc il y a aussi une idée un peu de faire quelque chose au mois de février. Qui relève un peu de la survie, donc ça veut dire une organisation très très sérieuse, complexe, qui peut être un peu au niveau de l'équipement, mais c'est ça qui nous stimulait aussi. L'idée, c'était pas de partir à deux, donc on a pensé à un ami aussi avec qui on a fait l'escalade et un peu de montagne plus récemment, Nicolas, et donc ça a formé l'équipe, donc c'est parti de cette idée là vraiment très spontanée, et évidemment après on s'est attelé à toute l'organisation.
Renate. Pourrais-je. Il n'y a même pas de mot en français. Ouais. Le chou, c'est le pourrais-je, mais tu sais, c'est. Ouais. Après, tous les mots, vous les avez. Un train.
Train.
Des skis. C'est anglais. Ski. Un sac, comment tu dis ?
Email, bague.
Bague. Ouais, bague.
Bague.
Petit
bague.
Non,
le break. Les bagages, c'est plus luggage.
Il faut vraiment. En fait, les voyelles en anglais.
Alors, on les
faut que je pense un peu quand on les woke. Voilà. Tu les mâches.
Ouais.
Dans le projet de partir, en fait, il y a eu cette question de comment on voyage également. Parce que aussi il y a un voyage qui est possible en avion, on ne voulait pas prendre l'avion, donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le temps, cette notion de temporalité aussi. Donc ça fait 6 jours de voyage aller-retour en train non-stop, donc c'est aussi une expérience très intense et on en a gardé un très très bon souvenir. On a choisi cette destination parce que dans l'idée c'est l'un des parcs en Europe, c'est le parc le plus préservé, où la faune et flore y est protégée. D'ailleurs, c'est un refuge pour notamment, par exemple, les prédateurs. Évidemment, la période où on est parti, c'est-à-dire février, c'est une période où nous, on voit rien. On a vu des oiseaux, on a vu des rennes, Mais sinon, c'est plus eux qui nous observent. Même des traces de loups derrière la tente le lendemain matin. Par contre, c'était très important pour nous, et on l'a ressenti sur place également, d'être dans cet environnement. C'est extrêmement silencieux. Et l'objectif était juste d'y passer sans laisser la moindre trace de notre passage, dans un respect le plus possible de cette nature et à l'écoute. Puisque voilà, il y a eu ces épisodes, on n'est pas plus fort que la nature et on doit aussi se soumettre à ça. Les locaux nous ont raconté, après le sauvetage, on a bu un verre avec l'un des secouristes, vraiment adorable, qui nous expliquait effectivement, il nous montrait une carte de tous les parcs environnants, et il nous expliquait en fait qu'il faisait beaucoup de secours, déjà en ce moment et ces dernières années, dans de voyageurs qui essayaient de faire des expéditions de ce genre. Et il nous a dit que c'était très inhabituel, ces écarts de température là, à avoir moins 25, moins 30 la nuit, et en journée 5 degrés, 1 degré, 2 degrés. Le danger en fait, il se situe au niveau de l'humidité, parce qu'un taux d'humidité donc très élevé, puisqu'on génère de la chaleur, et nous en fait c'est ça, le problème qu'on a eu c'était ça, c'est-à-dire que ça a trempé tout notre matériel technique. C'était une question de jour, on aurait poursuivi. Trois jours plus tard, ça aurait été peut-être vraiment très critique. Et donc une nuit, suite à une humidité telle, une nuit à moins 30 derrière ou moins 40, là il y a des risques d'hypothermie. Donc ils nous ont bien dit que c'était un très bon choix d'avoir appelé les secours.
Histoire de sur Studio Zef. Mathieu Klitting, directeur de l'école des pôles.
Les pôles aujourd'hui, ils sont en grand changement, notamment l'Arctique qui se trouve du coup au nord, en fait parce que ça se réchauffe jusqu'à 4 fois plus vite que le reste de la Terre. Et là-bas, 4 fois plus vite, ça veut dire que comme c'est constitué notamment beaucoup de glace, en fait, tout le paysage est en train de changer, et on se rend compte en fait, que la glace, on imagine que c'est seulement de l'eau, mais en fait pas du tout, ça a plein de propriétés et ça permet d'apporter plein d'éléments. Et du coup, si demain on venait à perdre l'Arctique qui est en train de se réchauffer extrêmement vite, on pourrait avoir plein de conséquences comme la montée des eaux, comme une chute de la biodiversité parce qu'elle dépend beaucoup de cette région arctique, mais aussi en fait, des émissions de méthane, plein des maladies potentiellement qui ont disparu depuis des milliers d'années qui pourraient revenir à la vie. Et donc en fait plein d'éléments qui, en fait, mis les uns avec les autres, en fait, peuvent créer une chaîne qu'on ne pourrait plus arrêter en fait.
Après une formation scientifique spécialisée en écologie des oiseaux marins, Marion de Vogel est aujourd'hui responsable communication et animatrice au sein de l'association de l'École des Pôles.
Témoin polaire, c'est un fonds de dotation qui a pour vocation de parler des régions polaires et du climat. Et dans le fonds de dotation Témoin polaire, il y a surtout l'École des Pôles qui, elle, cherche à sensibiliser sur le climat les scolaires via le prisme de l'émerveillement et des régions polaires. Donc pour ça, on sort les élèves de la salle de classe. On les embarque soit à bord de navires de voiliers tradition, soit on les emmène dans des décors immersifs pour leur parler des régions polaires, de tout ce qu'il y a de merveilleux là-bas et en quoi ces régions polaires sont aujourd'hui essentielles pour le climat mondial. Donc on leur parle du climat, mais aussi de tous les enjeux qu'on a dans ces régions polaires, tout ce qui est géopolitique, aussi la biodiversité qu'on va avoir là-bas. Et puis aussi, pour les embarquer dans cette aventure, on part des premières expéditions polaires, donc on suit le chemin de notamment Jean-Baptiste Charcot, qui a été explorateur et qui est le premier Français à être allé en Antarctique. Donc nous, on les embarque dans cette aventure, on suit les traces de Jean-Baptiste Charcot pour aller découvrir ce qu'il y a dans les régions polaires et pourquoi elles sont si importantes aujourd'hui. Les recherches scientifiques qui sont menées en Arctique ou en Antarctique vont être un peu différentes. Déjà, le fonctionnement est différent parce qu'en Antarctique, on va trouver des stations polaires, des stations scientifiques où on va avoir des gens qui restent vraiment sur une année entière. Et après, il y en a qui vont faire des campagnes pour la période d'été. Mais c'est un endroit où il n'y a pas d'habitants en Antarctique, donc c'est des scientifiques qui vont se relayer au fil des années. Alors qu'en Arctique, on a des territoires qui sont habités. Donc la science va se faire un peu différemment. On peut avoir des gens qui vont rester sur plusieurs années et qui vont pouvoir aussi travailler avec les populations locales. Donc ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Le mode de gestion aussi de ces deux régions sont différentes, parce qu'en Antarctique, c'est un territoire qui est dédié à la science. Donc c'était fait pour les recherches scientifiques. Alors qu'en Arctique, en fonction de là où on veut aller étudier, on va se retrouver sur un territoire ou un autre, donc, que ce soit au Groenland, en Norvège, au Svalbard. On ne va pas avoir affaire aux mêmes législations. Quand on étudie par exemple les animaux, il y a des règles à respecter. Donc en fonction de là où on va, ce n'est pas le même fonctionnement. On va pouvoir étudier les mêmes choses, que ce soit en termes de biodiversité, de fonte des glaces, de composition des océans. C'est des recherches qui se ressemblent et souvent elles sont comparées, mais parce qu'on a des milieux très proches avec des conditions similaires. Donc on peut appliquer souvent les mêmes méthodes, mais c'est plutôt au niveau de la législation que ça ne va pas se passer de la même manière. La fonte de glace, c'est un problème pour beaucoup de choses, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux scolaires qu'on reçoit via des expériences ou des illustrations. Alors déjà, il faut séparer deux types de glace. Il y a la glace de banquise, qui est une glace faite à partir d'eau de mer. Celle-ci, elle est support de biodiversité, entre autres. Si cette banquise disparaît, on perd toutes les espèces qui en ont besoin. Ça va aussi réguler cette banquise, nos courants marins. Le Gulf Stream, qui permet d'avoir le climat, la météo qu'on a aujourd'hui en Europe, il est directement lié à cette banquise. Donc ça, c'est un impact direct sur nous, sur notre quotidien, si on a la fonte de cette banquise. Et après, on a les fontes des glaciers. Les glaciers, là, c'est un autre type de glace, c'est de l'eau douce qui se trouve sur Terre. Et donc de l'eau douce qui se retrouve sur Terre, quand elle fond, enfin cette glace, elle va se retrouver déversée dans les océans. Là, ça contribue à l'élévation du niveau de la mer. Il y a aussi une perturbation de la biodiversité qu'on va trouver dans ces milieux. Et puis après, aujourd'hui, les scientifiques remarquent aussi que la fonte de ces glaciers, sous ces glaciers, il y a de la vie. Donc quand ces glaciers fondent, ça va dégager des gaz à effet de serre. Donc ça libère des gaz à effet de serre. Donc là aussi, ça a un impact, c'est une boucle de rétroaction. En fait, la fonte des glaces est liée à l'augmentation des gaz à effet de serre, mais la fonte des glaces entraîne aussi une augmentation des gaz à effet de serre. C'est aussi ça la vocation de l'École des Pôles, c'est aujourd'hui de faire le lien entre la science et les scolaires ou le grand public, parce qu'on se rend compte que les régions polaires, c'est assez mal connu encore, et aussi le climat. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur ce qui se passe, enfin, sur le réchauffement climatique, mais on s'y perd un peu. Et du coup, on essaye de faire le lien entre les faits scientifiques et le grand public et essayer de synthétiser tout ça pour que ce soit plus compréhensible aussi. Donc c'est ça aussi notre travail. Avec les lycéens, on observe un peu plus d'éco-anxiété. Donc ils se sentent un peu démunis face au fait, ce qu'on constate aujourd'hui. Mais nous, justement, l'idée, c'est de pas les laisser comme ça avec juste ces faits. C'est d'aller plus loin et de chercher ensemble des solutions, de réfléchir aux solutions, de voir ce qui peut être fait, ce qui est déjà fait aussi. Donc là-dessus, ça marche bien. Après, au niveau du grand public, ça nous arrive encore hein, de croiser des climato-sceptiques ou des gens qui vont nous dire que c'est pas à nous de nous occuper de ça, que c'est la faute d'autres pays. Pour ça, on est équipés pour répondre à ce genre d'arguments. Aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus que les gens s'y intéressent et prennent conscience. Donc notre travail n'est pas vain, mais il faut encore aujourd'hui qu'on soit là. Sinon, c'est pas encore garanti, acquis pour tout le monde.
Merci à Samuel, Marie-Noëlle Rimaud et Marion de Vogel. Retrouvez toutes les références et liens pour en savoir plus sur les poules, ainsi que le podcast de cette émission dans Histoire 2 sur studiosf.fr.